Bon.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue en direct de Bruxelles où nous sommes depuis hier pour les Journées européennes du développement, un forum qui a pour objectif de voir comment l'Union européenne, les États membres, les citoyens aident à éradiquer la pauvreté et défendre les droits de l'homme dans le monde. 5000 participants venant de 140 pays. Alors, nous avons parlé hier de ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'accès aux soins dans les pays du Sud et je vous propose aujourd'hui de voir comment finalement financer cet accès aux soins. Quel est le rôle de l'Europe dans l'amélioration de l'accès universel à la santé? Et quand on dit Europe, il s'agit bien sûr de la Commission européenne, du Parlement européen, mais aussi des États membres, des organismes de recherche, du monde de la finance. Avec en parallèle cette question, ces aides européennes pour faciliter l'accès aux soins sont-elles réellement efficaces et réellement adaptées aux besoins des pays du Sud? Je vous présente mes invités, ils sont nombreux autour de cette table, ils sont 6. Tout d'abord le docteur Adenika, qui est infectiologue, co-directeur du Centre de recherche médicale de Lambaréné au Gabon. Jean-Marc Châtaignier, directeur général délégué de l'IRD, qui est l'Institut de Recherche pour le Développement. Charles Gorins, qui est député européen du Luxembourg, spécialiste des questions de développement. Le docteur Walter Seidel, qui est chef du secteur santé au sein de la DG DEFCO, Direction Générale Développement et Coopération. Le docteur Gwenaël Rodier, qui est directeur de la Division Maladies Infectieuses, Sécurité Sanitaire et Environnement de l'OMS Europe, basé à Copenhague. Et Oliver Griffith, qui est chef de la communication de la SFI, Société Financière Internationale en Europe, qui est en fait une structure secteur privé de la Banque mondiale. Bonjour à tous les 6 et merci d'être aussi nombreux pour parler de ces questions de financement, de l'aide européenne sur les questions de santé, sur l'accès aux soins pour tous, qui est réellement un droit, on en a longuement parlé hier. Docteur Walter Seidel, quel est le rôle finalement de la DG DEFCO, c'est-à-dire de cette Direction Générale Développement et Coopération? On ne vous connaît pas bien.
Voilà, merci de me donner cette occasion de vous expliquer ce que c'est la Commission européenne. Nous gérons, nous mettons en œuvre, en ce qui concerne le développement, le budget européen alloué par le Parlement européen aux questions de développement et le Fonds européen de développement, le FED, dont certains écouteurs ont certainement entendu parler. Moi, je suis chef de la section santé, donc nous, on s'occupe de la qualité de mise en œuvre de nos programmes dans la santé.
Et par exemple, vous avez un chiffre sur le montant de cette aide?
Voilà, pour l'Europe, pour les institutions européennes, c'est à peu près 10 000 milliards d'euros par an que nous mettons en œuvre pour questions santé dans les pays en voie de développement dans le monde entier.
Ce chiffre, c'est celui que donne la Commission européenne plus les États membres?
Non, c'est les seules institutions européennes. Hein. Ça représente à peu près 6% de l'aide totale de l'Europe, donc l'aide totale est beaucoup plus grande que celle pour la santé.
Donc 6% de l'aide totale de l'Europe est consacrée à la santé.
Bon, si on met toutes les États membres ensemble, on arrive à peu près à ce chiffre. Et pour l'aide européenne ensemble, aide au développement, c'est à peu près 75 milliards dans l'année. Donc, si vous appliquez ce calcul, on arrive à peu près à 5 milliards pour la santé, si on inclut à la Commission européenne, aux institutions européennes, les États membres eux-mêmes qui ont aussi, bien sûr, tout leur programme d'aide au développement et d'aide à la santé.
On le comprend bien, une somme importante. Charles Gorins, en tant que parlementaire européen, donc vous votez le budget de la Commission. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette aide européenne sur la question de la santé? Est-ce qu'elle vous paraît adaptée?
On insiste depuis des décennies qu'il faut consacrer au moins 20% de l'aide totale à la promotion du secteur de la santé, parce que c'est le secteur qui permet aussi d'éliminer la pauvreté et d'intervenir là où les États récipiendaires de notre aide sont défaillants. On le voit très bien au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée, que cette crise est systémique, parce que ces trois pays sont en bas de l'échelle pour ce qui est du développement de l'indice du bien-être humain. 85% vivent dans la pauvreté absolue. La scolarité est inférieure à 4 ans et l'espérance moyenne de vie aussi entre 55 et 60 ans. C'est systémique à ce niveau, c'est systémique aussi au niveau de la gouvernance internationale. C'est la raison pour laquelle nous devons concentrer notre aide pour l'accorder à ceux des pays qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Pour ce qui est des pays émergents, ils génèrent suffisamment de ressources pour faire face eux-mêmes à leurs propres problèmes.
C'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites les pays émergents, il faut plus qu'on les aide. Or, on sait que dans ces pays émergents, si on cite l'Inde, si on cite la Chine, il y a encore une des très grandes fortes couches de pauvreté.
C'est vrai, mais ces pays, avec des croissances de l'ordre de 5, 6, 7, 8, parfois 15%, dégagent suffisamment de ressources, donc c'est une orientation politique à prendre. Ce qui n'a guère encore été un objet de solidarité internationale est aujourd'hui devenu un objet de la politique intérieure. Donc il faut qu'ils fassent eux-mêmes, face à leurs propres problèmes de pauvreté, étant donné que plus des deux tiers des pauvres vivent dans les pays émergents, et que l'Europe doit se concentrer sur les pays les moins développés et ceux qui en ont réellement besoin. Toutes les grandes conférences qui sont devant nous vont devoir se terminer par un appel à la responsabilisation de tous. Les pays émergents, pour ce qui les concerne, peuvent faire plus que par le passé. Et nous, en tant qu'Européens, nous pouvons nous concentrer sur ceux qui ont vraiment besoin de l'aide.
Et pour revenir à la question que je vous posais au départ, vous trouvez finalement que Commission européenne et États membres, d'ailleurs l'ensemble confondu, ne consacrent pas assez d'argent à la santé dans l'aide globale. C'est ça que vous nous avez dit. On a entendu le chiffre de 6% tout à l'heure. Vous vous dites qu'il faudrait que ce soit 20%. Donc on ne fait pas assez.
Donc, je crois qu'il faut ventiler les chiffres. Je crois que le pourcentage accordé par la Commission est de l'ordre de 20... Enfin, pour les secteurs sociaux de base, dont fait la partie la santé, on dépasse quand même les 20%. Donc ça, c'est un investissement direct dans la santé, dans les secteurs sociaux de base. Il faut ajouter aussi que les chiffres, c'est une manière d'aborder le problème. Il y a aussi les méthodes. Moi, je suis partisan de l'accès à la sécurité sociale pour tous. Et tous les pays pourront le faire. Hein. Au Rwanda, je le rappelle au passage, 90% de la population a accès à la sécurité sociale. Au Malawi, qui est un pays extrêmement pauvre, il arrive à mettre en place un début de sécurité sociale. Alors qu'aux États-Unis, ils l'ont depuis 5 ou 6 ans.
Hein. Oui, voilà. Donc c'est faisable. Il y a plusieurs exemples en Afrique.
Question de volonté politique.
Absolument. Docteur Adenika, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre centre de recherche médicale à Lambéréné au Gabon, à Lambéréné? Sur quoi concrètement vous travaillez?
Oui.
Avant que vous nous parliez des aides européennes, justement, dont vous bénéficiez.
D'accord, merci Claire. En fait, le centre de recherche médicale de Lambéréné, qui est basé à l'hôpital Albert Schweitzer, contribue énormément à une meilleure compréhension des maladies tropicales qui sévissent au Gabon. Et à travers la recherche clinique, nous essayons d'améliorer le système de santé en améliorant les protocoles de traitement et aussi en améliorant les médicaments, le traitement contre les maladies infectieuses, notamment le paludisme. En premier lieu, nous avons aussi les vers qui n'intéressent pas beaucoup de gens, qu'on appelle les maladies négligées, qui affligent beaucoup la population en zone rurale, dans lesquelles nous rendons souvent pour faire le diagnostic, pour prendre en charge la population. Et toutes ces études que nous menons au niveau de Lambéréné ont des financements et pas des projets, pas d'appel à candidature par l'Union européenne qui finance les projets de recherche dans le domaine de la santé. Et quand nous participons à cet appel, et nous avons certains succès, comme on le dit souvent, on ne gagne pas toujours. Et quand on gagne, c'est moyen.
C'est ça, c'est compliqué aussi, les appels d'offres de l'Union européenne.
C'est pas facile. Les conditions sont parfois, nous on a la chance d'avoir des partenaires européens qui nous aident à y arriver. Certains n'ont pas cette chance.
Mais est-ce que vous avez un exemple à nous donner de façon très précise, en quoi à un moment l'Union européenne vous a aidé sur quel projet de recherche?
L'Union européenne nous a aidé sur beaucoup de projets de recherche, notamment si on commence par le FP6, FP7.
Et sur Mon Dieu, c'est quoi ça? Moi, FP7, je ne sais même pas ce que c'est. Le grand public ne va pas savoir ce que c'est FP6,
européens,
FP7.
Le FP, ça sera le framework. Framework Programme.
D'accord. C'est un cadre de la recherche.
D'accord. Mais là, pour qu'on comprenne, pour que l'auditeur comprenne à quoi ça sert, mais sur quel programme de recherche, sur des programmes. Par exemple, vous participez à toutes les recherches sur le vaccin contre le palu.
Oui, le programme de vaccin contre le paludisme. Nous avons le programme contre le vaccin contre l'ankylostome, qui est un ver qui entraîne l'anémie sévère chez les enfants d'âge scolaire, chez la femme enceinte. Actuellement, nous avons reçu un financement de l'Union européenne pour évaluer ce vaccin qui est en sa première phase. Donc c'est un développement qui est en cours et nous avons aussi reçu des financements de l'Union européenne pour essayer de comprendre le mécanisme des infections et des maladies infectieuses chez les autres, comment ces infections peuvent affecter les autres et maladies, notamment quand vous avez les infections avec les vers, pour être plus protéiné, votre système immunitaire est un peu affaibli. Ce qui fait en sorte que quand on vous vaccine avec d'autres vaccins, ces vaccins ne marchent pas bien. Donc, il faut comprendre
parce
le mécanisme.
Justement, votre système immunitaire fonctionne pas bien.
Ne fonctionne pas très bien. Donc, et nous essayons de comprendre tout cela. Mais l'aide que nous recevons de l'Union européenne nous sert aussi à comprendre tout ce mécanisme. Et à travers ça, il y a les gens qui arrivent à faire leur master, les études. Et aussi, on donne les données au niveau international, niveau national d'abord, pour comprendre leurs problématiques. Et au niveau international, pour pouvoir améliorer les vaccins qui sont développés et qui seront développés et à terme.
Jean-Marc Châtaignier, vous êtes directeur général de l'IRD. Justement, l'IRD, vous, c'est vraiment votre préoccupation qui est de la recherche au sud.
Oui, exactement. Bonjour, merci Claire de me passer la parole. L'IRD, c'est l'institut de recherche qui travaille sur un certain nombre d'enjeux globaux, d'enjeux partagés entre le Nord et les Suds, parce que effectivement, je crois qu'il faut maintenant parler des Suds. Ils sont très différents. La Bolivie, ce n'est pas le Burkina Faso, et le Burkina Faso, c'est pas l'Inde ou le Brésil. Mais les enjeux que nous avons, auxquels nous devons faire face, sont partagés. L'enjeu du climat, l'enjeu de l'environnement, l'enjeu de la biodiversité et l'enjeu de la santé, qui est vraiment un enjeu partagé au niveau global. On l'a vu récemment avec la récente épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, que ça pouvait toucher les États-Unis, que ça pouvait toucher l'Europe. Et donc c'est une problématique auquel nous devons faire face effectivement collectivement. Et donc l'IRD traite de beaucoup de questions, mais effectivement travaille beaucoup sur ces questions de santé.
Et avec des chercheurs du Nord et du Sud qui travaillent ensemble, c'est quand même une vraie particularité. Plusieurs organismes qui font ça, mais vous en êtes un exemple.
La vraie particularité de l'IRD, ce qui fait que l'IRD est unique, c'est son partenariat. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le CNRS français, nous ne travaillons pas que pour la France. Nous travaillons avec des pays partenaires pour aider les scientifiques, les chercheurs, les communautés scientifiques de ces mêmes pays à réfléchir sur ces enjeux. Et pour cela, nous avons des instruments très spécifiques, des laboratoires mixtes internationaux, donc pas français, mais franco-burkinabé, franco-brésilien, franco-mexicain. Nous intervenons dans le monde entier, nous faisons des échanges d'expériences. Et ce que je voulais compléter un tout petit peu ce que disait le député Charles Gorins, c'est vrai que, par exemple, pour l'Inde ou pour la Chine, ce n'est plus une question d'argent, le financement. L'Europe,
c'est une question de choix politique, c'est ça que vous voulez dire.
C'est une question de choix politique, mais c'est aussi une question d'échange de savoir, de connaissances, d'expérience, d'apport technique. Quand vous montez un système de sécurité sociale, vous avez de nombreux modèles qui peuvent exister. Il n'y a pas un seul modèle qui doit s'imposer à tous. On ne cherche pas à imposer la sécurité sociale française au monde entier. Nous devons aider nos partenaires par des échanges d'expériences à choisir vraiment les modèles qu'ils souhaitent construire.
Vous voulez réagir, Charles Gorins?
Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. J'aurais dû préciser tout à l'heure qu'il n'est plus question d'engager des milliards dans les pays émergents. Mais ce qu'il faut leur accorder, c'est des assistances techniques. Nous avons une expérience à partager, un savoir à partager avec ces pays. Donc c'est à ce niveau que ça se joue. Et
Il ne s'agit pas de les abandonner, ça vous voulez dire.
En termes de milliards, mais en termes d'assistance technique, nous pouvons parfaitement leur accorder.
Docteur Rodier, vous travaillez pour l'OMS Europe, vous êtes basé à Copenhague. En l'occurrence, ça fait, je crois, plusieurs mois que vous êtes plutôt en Guinée, en tout cas dans les pays touchés par Ebola. Justement, Jean-Marc Châtaignier vient de parler de cette épidémie d'Ebola où d'un seul coup, on a l'impression que le monde s'est senti concerné, s'est dit que finalement, peut-être que la santé en Afrique, ça nous concernait tous. Et je trouve que surtout, on a d'un seul coup découvert dans la communauté internationale ce que probablement vous et moi, on savait, c'est l'état des systèmes de santé dans ces pays-là.
Ben justement, je crois que c'est tout à fait intéressant de voir qu'il a fallu une grande crise pour se rendre compte au niveau planétaire de problèmes qui existent depuis très longtemps. On a géré correctement plus de 20 épidémies d'Ebola dans des situations plus ou moins difficiles. Et là, on est effectivement dans un contexte particulièrement difficile qui a été bien rappelé tout à l'heure concernant la pauvreté, notamment des ressources de santé. Et l'OMS, c'est une agence technique. On n'est pas une agence de développement d'abord, mais on est une agence technique avec des qui est proche du terrain. On est proche du terrain. On a un bureau à Brazzaville, on a un bureau à Conakry, à Monrovia, à Freetown. Et ça, c'est extrêmement précieux pour réagir vite. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne sais pas si la pauvreté dans le monde s'accroît, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait face de plus en plus, en termes de nombre et de taille, à des urgences de santé publique qui sont donc de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes. Ce qui est aussi met l'OMS sous pression pour arriver à faire face à tous ces besoins. Mais
OMS qui a été beaucoup critiqué hein, quand même sur le début de cette réaction à l'épidémie d'Ebola. Peut-être vous avez trouvé injustement.
Oui. Non, je crois qu'il y a des leçons qui sont apprises, bien sûr, sur les déploiements et les expertises. Mais sur le plan pratique, il faut voir que le tout début de cette épidémie était juste sur trois frontières entre Libéria,
Sierra Leone et Guinée.
Et donc d'emblée, il s'agissait de trois éléments. Et très vite, ça joint les capitales. Peut-être parce que notamment côté Sierra Leone et Libéria, c'est très difficile de trouver des structures de soins dans les districts périphériques. Donc, vous vous rendez à la capitale tout de suite. Et si la capitale n'est pas prévenue, dans des structures où le contrôle de l'infection est particulièrement pauvre, vous avez toute la recette pour une épidémie importante.
Oliver Griffith de la SFI, la Société Financière Internationale, en fait, qui fait partie de la Banque Mondiale. Alors, vous, financiers, on a parlé du montant de l'aide européenne, on a parlé d'une aide publique. L'aide privée est aussi importante.
C'est pas vraiment l'aide privée, c'est l'investissement privé. Mmh. Mais certainement, l'aide publique est hyper importante pour bâtir les institutions dans ces pays, les hôpitaux, tout ça, mettre en place des systèmes de soins compréhensifs, utilisant les modèles peut-être d'autres pays. Et c'est un rôle très important à jouer. Mais certes, les investissements privés sont au moins 6 fois plus importants que l'aide publique.
Mais c'est des investissements, vous l'avez bien dit, c'est pas de l'aide.
C'est pas de l'aide, non. Mais les sociétés doivent faire leur pour continuer d'investir dans ce pays. Mais les deux doivent travailler ensemble. Nous, on travaille avec la Banque mondiale, notre organisme principal. La santé est une priorité principale pour une des 14 grandes divisions qu'ils ont.
Mais justement, qu'est-ce que vous faites dans le domaine de la santé?
Dans le domaine de la santé, on fait 3 choses. On accroît l'accès aux soins de qualité. Ça veut dire qu'on finance des réseaux d'hôpitaux. Aussi, on fait des conseils techniques. Pour améliorer
les hôpitaux publics ou privés?
Privés. Parce que le secteur santé privée a un rôle très important à jouer dans les pays où les revenus des gouvernements, c'est peut-être 15% des produits bruts. Hein. Ils n'ont pas l'argent pour financer tout ça. Dans un monde idéal, ça serait...
Très franchement, vous pensez que les hôpitaux privés dans les pays qu'on vient de citer, par exemple, 3 pays pauvres d'Afrique, Guinée, Sierra Leone et Libéria, mais on peut citer plein d'autres, vous pensez vraiment que l'hôpital privé va faciliter l'accès aux soins des plus
pauvres? Il y a des modèles qui marchent, qui viennent d'autres pays en développement comme l'Inde, où les hôpitaux privés subventionnent d'une certaine manière les plus pauvres avec ceux qui ont plus d'argent. Il y a une gamme de prix différents. Nous avons 3 milliards d'investissements dans 180 projets privés partout au monde. Ça fait partie d'un investissement total, un portefeuille de 50 milliards de dollars. On travaille dans 53 pays. Alors, on a vu que ça marche. Aussi, le financement des fabriques de pharmaceutiques pour baisser les prix des produits médicaux et aussi la transférence technique des capitales, les connaissances du Nord. Alors, les deux doivent travailler ensemble, se complémenter. Mais sans le secteur privé, ça peut pas marcher.
Charles Grasse, vous voulez réagir sur cette question et je pense que Jean-Marc Châtaignier aussi sur cette question probablement des hôpitaux privés que je posais.
Je voulais dire que la Banque mondiale, elle aussi, a des choses à se faire pardonner. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne sont pas irresponsables pour ce qui est du refus d'accorder suffisamment de fonds au développement du secteur de
santé.
Vous
parlez des politiques d'ajustement structurel.
Par les plans d'ajustement structurel. C'est ce que j'appelle la crise systémique. Je crois que la Banque mondiale elle-même a reconnu ses erreurs dans le passé, le Fonds monétaire international aussi. Ça a changé depuis. Il faut s'accorder sur le fait que la santé, l'accès à l'eau, l'éducation sont des biens publics. Et l'État a une responsabilité.
Bien public et un droit.
Oui, et un droit. Et un droit, on peut discuter des moyens pour y arriver. Le privé peut être complémentaire, mais il faut quand même que quelqu'un fasse en sorte que l'obligation de résultat soit respectée.
C'est subversible de dire bien public, parce que ça veut dire beaucoup de choses derrière. Ça veut pas dire d'hôpitaux privés dans ces cas-là.
Je vais vous dire une chose. Hein. Tout le monde ici autour de cette table sait ce que veut dire un prêt concessionnel. Hein. La Chine va en Afrique, elle dit à un chef d'État, je te prête 1 milliard de dollars, tu ne rembourses pas un rond. En revanche, je te construis un hôpital de luxe, et tu me donnes des droits d'exploitation minière. Hein. Mais les Africains se font rouler dans la farine. Hein. Les bouchers ne sont pas des Africains, mais enfin, oui, ils sont les serveurs des corrompeurs. Hein. Alors, le corrompeur vient de l'extérieur.
Et je suis désolée de vous interrompre, Charles Grasse. Ce que vous dites est passionnant, mais vraiment, je vous redonne la parole dans 3 minutes, juste après les informations, pour que vous nous expliquiez exactement votre point de vue. On est donc toujours en direct de Bruxelles pour les Journées européennes de développement. Maro.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement. Nous parlons du rôle de l'Europe pour faciliter l'accès aux soins dans les pays en développement. Ils sont 6 autour de cette table. Le docteur Adenika du Centre de Recherche Médicale de Lambaréné au Gabon, Jean-Marc Châtaignier de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, Charles Gorins, député européen du Luxembourg, docteur Walter Seidel, chef du secteur santé au sein de la DGDEFCO, qui est la Direction Générale Développement et Coopération, le docteur Rodier de l'OMS Europe et Oliver Griffith, chef de la communication de la SFI, qui est la Société Financière Internationale qui fait partie de la Banque Mondiale. Charles Gorins, justement, juste avant les informations, vous étiez en train de critiquer la Banque Mondiale, les politiques d'ajustement structurel qui ont fait des dégâts et qui, en fait, ont eu des conséquences en termes d'accès aux soins.
Oui, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont corrigé le tir, mais néanmoins, ils sont en partie co-responsables de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est une crise d'accès aux soins, nous devons y pallier en concentrant nos efforts notamment sur ceux des pays qui ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, disais-je. En plus, pour ce qui est du Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria, il y a lieu de relancer l'économie pour qu'elle puisse dégager à son tour de nouvelles ressources.
Il y a des pays qui étaient à 10% ou entre 8 et 10% de points de croissance dans ces trois pays et qui, à cause de l'épidémie d'Ebola, sont descendus à 1 ou 2.
On avait tablé sur une croissance supérieure à 6-7% et en fait, ils sont dans la récession. Donc, il y a un gouffre entre...
Le non-accès à la santé coûte cher.
Le non-accès à la santé coûte extrêmement cher. Ça se traduit en termes de réduction, de révision à la baisse de la croissance économique. Donc, la communauté internationale doit entreprendre un effort. Parce que la question est de savoir, est-ce que le virus est aussi contagieux en Afrique qu'en Europe, ou inversement? Oui. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il ne contamine pas chez nous? Parce qu'on a pris des...
On a des systèmes de santé qui fonctionnent.
On a pris des précautions, on a un système qui fonctionne, et puis depuis qu'il n'y a plus de cas en Europe, tout le monde s'en fout comme de l'an 40. Hein? Il faut le reconnaître et le dire tel quel.
Mais les médias n'en parlent plus.
Mais nous défendons nos intérêts de santé sur place, dans ces trois pays. Le front de lutte contre l'Ebola, chez nous, ça se passe au Sierra Leone, en Guinée, et au Libéria. Il faut en être conscient, comme disait Louis Michel dans le temps, si vous ne le faites pas par altruisme, faites-le au moins par égoïsme.
Par intérêt, parce qu'on a intérêt, on veut être en bonne santé, à ce que le Sud le soit aussi, c'est important de le dire. Jean-Marc Châtaignier de l'IRD, vous vouliez réagir.
Je voulais un petit peu réagir par rapport notamment à l'intervention d'Oliver Griffiths. Je pense que, très très sincèrement, on a un agenda très ambitieux, qui est l'agenda, le nouvel agenda du développement durable post-2015. Et il y a un mot d'ordre dans cet agenda, il ne faut laisser personne derrière. Or, actuellement, sur les questions de santé, si vous regardez ces questions de santé dans le monde, nous avons 1 milliard de personnes, 1 milliard de personnes sur 7 qui n'ont pas accès à la santé. Chaque année, nous avons 100 millions de personnes qui basculent dans la pauvreté parce qu'elles ne peuvent pas faire face au financement de leurs dépenses de soins. Elles ne peuvent pas payer leurs soins. Je suis en désaccord en fait avec ce qu'avait dit Oliver. Je pense que les systèmes privés sont importants, mais ils ne peuvent pas être une réponse à ça. Et donc, là où nous devons investir, c'est pour ce milliard de personnes pauvres. Et là où nous devons investir, c'est dans la construction de systèmes de financement de santé, de la couverture sanitaire universelle, de la CSU, qui permettent à tous les citoyens dans le monde d'avoir accès, d'avoir droit à la santé.
Il faut aussi rappeler... Ça, vous êtes en train de nous dire que ça passera que par un système public qui rejoint ce qu'a dit Charles Gorins en disant que c'est un bien public, la santé. Ça peut difficilement être aux mains du privé.
C'est pas aux mains du privé, ça peut pas être aux mains du privé. Le privé peut être complémentaire pour certaines classes supérieures et des classes riches, mais ça ne peut pas être un financement du privé pour financer ce type d'investissement massif. Ça n'a été fait nulle part dans le monde comme ça. Ça a toujours été des investissements publics. Si l'Europe s'est construite, si le système de welfare européen s'est construit, c'est une solidarité publique. Et je suis au regret de le dire, si le système américain de santé...
Oui, avec des méthodes différentes d'ailleurs, que ce soit Allemagne, Angleterre ou France, on n'a pas un même système de sécurité sociale, mais en fait il est public.
Il est public. Mais si vous regardez le système américain, c'est un système privé qui s'est construit de façon tout à fait différente, mais qui laisse une masse de population considérable, et d'ailleurs c'est un enjeu de débat politique considérable aussi aux États-Unis, en dehors de la question.
Alors, y a
donc là, il y a un vrai enjeu.
Docteur Adenika du Gabon,
vous voulez réagir. Merci beaucoup. Je crois que le débat est sur le public ou le privé. Il faut aller au juste milieu. Le partenariat public-privé doit primer au-dessus de tout. C'est-à-dire, les investissements doivent aller au niveau
parce
du privé.
Parce qu'en fait, vous êtes du privé.
Nous sommes du privé, mais nous sommes en partenariat public-privé avec le gouvernement
gabonais,
qui aujourd'hui s'intéresse beaucoup aux activités que nous menons au niveau du centre de recherche médicale de Lambaréné, où le gouvernement voit les actions positives que nous menons. Parce qu'à travers la recherche et au niveau du privé, on arrive à améliorer le système de santé. Je vous prends un exemple simple. Le développement du vaccin RTSS qui va sortir bientôt
contre le paludisme. Qui n'est pas super efficace, hein, d'ailleurs, on peut quand même le dire.
Non, c'est pas efficace. C'est le meilleur pour l'instant sur le marché.
Il n'y a pas mieux encore
sur le marché. Et nous travaillons encore sur beaucoup d'autres vaccins et nous espérons qu'on va arriver à une efficacité acceptable. L'efficacité que nous avons aujourd'hui, c'est la meilleure qui existe dans le monde actuellement. Bon, je vous parlais tout à l'heure du partenariat public-privé dans le système de santé. Comment ça peut marcher? Si on prend le développement d'un vaccin, je ne parle pas du vaccin en tant que tel, l'activité du développement du vaccin. Parce que lorsque vous faites un essai clinique, vous êtes plus proche de la population. Et quand on compare les populations qui ont participé aux études de recherche, ou bien les zones qui ont participé aux études de recherche, le système de santé est meilleur que les zones qui n'ont pas participé. Et même les gens qui ont participé, qui n'ont pas reçu de principes actifs, qui ont reçu le placebo seulement dans la population, comparé à ceux qui n'ont même pas participé à l'essai, ils ont un meilleur état de santé.
Ils ont eu accès aux soins.
Et le meilleur soin. Privilégier le partenariat public-privé avec l'Europe, bien sûr. Et ça, au lieu de tout mettre au niveau du public maintenant, on peut essayer de négocier ce partenariat public-privé.
Docteur Seidel, de la Commission européenne, de la DGDEFCO, vous vouliez réagir?
Justement, à propos de la relation entre le privé et le public. Je pense, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du financement de la santé? Est-ce qu'on parle de la protection sociale? Ou est-ce qu'on parle de la prestation des soins? Quand on parle financement, je pense, c'est notre politique commune européenne qu'on dit que c'est le rôle de l'État d'assurer qu'il y a ce financement. Comment on le fait? Ça varie énormément entre les pays. Les uns passent par le budget de l'État et les taxes. Les autres, comme en France, Allemagne et Belgique, ont des contributions à la sécurité sociale ou à l'assurance maladie obligatoire. Et je souligne obligatoire, ce qui est très, très différent de l'assurance volontaire privée. Et c'est seulement cette obligation par l'État.
Et c'est l'obligatoire, entre guillemets, qui permet un équilibre. C'est-à-dire que ceux qui sont en bonne santé aident au financement de ceux qui sont en mauvaise santé. Ce principe d'obligatoire est important.
Il est absolument important que ça soit obligatoire. Autant que c'est volontaire, ça marchera pas en termes de couverture universelle. Deuxièmement, nous exigeons aussi à ce qu'il y a ce qu'on appelle fair financing, c'est-à-dire qu'il y a une contribution juste de tout chacun en fonction de ses revenus, qu'il y a une progressivité et dans la taxation ou dans les contributions au système. Et c'est cette même philosophie que nous essayons d'appliquer ensemble avec les autorités nationales dans les pays en voie de développement. Bien sûr, à des différences énormes de la dépense de la santé publique. Nous parlons ici dans nos pays partenaires et je pense que ça c'est important que vos écouteurs le savent. C'est des autorités sanitaires qui se voient obligées de faire fonctionner un système de santé avec moins de 20 euros par personne par an. Par comparaison, dans la plupart des pays européens, on est au-delà de 2000. Donc, on a un écart de 1 à 100. Et des fois, ces administrations, ils font un vrai miracle avec un niveau aussi bas d'investissement d'arriver quand même à une couverture sanitaire, par exemple, de vaccination ou d'assistance à l'accouchement par des gens qualifiés.
Suffisamment
élevés. Et ça, je pense, il faut le reconnaître. Il faut un travail énorme, il faut qu'on leur aide, il faut qu'on les appuie.
Oliver Griffith, vous voulez réagir parce que là, la Banque mondiale s'est retrouvée un peu sur la sellette et puis la question du privé.
Oui, deux, trois choses. Tout d'abord, la Banque mondiale, c'est pas le Fonds monétaire international. On fait pas des investissements structurels. Mmh. C'est l'aide au développement. Mmh. Et deuxièmement, la SFI n'est pas la Banque mondiale, c'est le secteur privé. Mmh. Alors, le partenariat public-privé est hyper important. Dans un monde idéal où tous les pays africains, tous les pays pauvres marchent comme les pays européens avec des administrations qui marchent plus ou moins bien, avec des recettes budgétaires de 50% de PIB, ça peut marcher.
Donc avec des gens qui payent
mais
des impôts,
mais au moment où il a des pays avec 10, 15% des recettes publiques, comment ils vont mettre en place toutes seules et avec le peu d'aide qu'ils reçoivent de dehors ces systèmes publics? Bien sûr, l'État doit gérer ce système, c'est sûr, et on travaille avec les États. Mais l'investissement dans les usines pour les pharmaceutiques et l'amélioration des soins, la coopération technique et tout ça, ça doit être financé en partie, en complémentarité avec le secteur privé. Le secteur privé ne va pas remplacer le secteur public. Mais il y a des pays comme l'Inde où 70% des soins sont déjà faits par le secteur privé. Et là, on a trouvé des exemples, des hôpitaux, des réseaux d'hôpitaux, Apollo Hospitals, par exemple, qui sont très efficaces et qui coûtent finalement moins cher parfois qu'aller dans un hôpital public, disons public, qui ne marche pas du tout et tu dois camper devant l'hôpital.
Qui est soi-disant gratuit et finalement, on doit payer.
Et payer les médecins.
Vous vouliez réagir, Charles Gorin, et puis après, je donnerai la parole quand même au docteur Rodier de l'OMS.
Oui, je crois qu'on a tendance à mélanger un peu fin et moyen lorsqu'on aborde cette question. La fin, c'est l'accès aux soins pour tous. Et c'est la loi qui doit imposer. La loi chez nous, la loi dans les pays en développement, la loi partout. Où est-ce que le bât blesse ? Vous venez d'y faire référence, c'est l'absence de moyens suffisants. C'est la raison pour laquelle, et c'est la raison qui justifie l'aide publique au développement. Il va falloir la porter à 0,7%. Engagement toujours pris, mais jamais tenu.
Depuis combien de temps on en parle, ça? C'est les années 70 ou à peu
depuis
près?
Depuis les années 70, il y a eu une inscription dans le consensus européen de développement de 2005 qui porte la signature du Conseil, de la Commission et du Parlement européen. Nos États membres vont aller à Addis Abeba, renouveler la promesse, ils n'ont qu'à lire les discours qu'ils avaient déjà prononcés à Monterrey.
Ils vont réitérer les promesses et la France, oui, on sait, est à 0,34, donc très loin
important.
Du 0,7.
Ici, ça touche aussi à la globalisation. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Lorsqu'on veut augmenter les standards sociaux chez nous, on dit, oui, mais les pays émergents n'en ont pas, donc ils sont plus compétitifs que nous. Donc il y a là, et dans les pays émergents, ils disent, oui, mais si nous introduisions des standards sociaux, on ne vend plus rien dans les pays industrialisés depuis plus longtemps. Alors, il faut mettre ça à l'ordre du jour du G20. Et il faut faire en sorte que des efforts soient pris partout et pour que les pays en développement ne restent pas sur la touche. Il y a moyen de surmonter ces problèmes. J'ai dit, le Malawi arrive à introduire la sécurité sociale avec les très peu de moyens qu'il a. Alors, c'est un moyen qui permet de structurer les sociétés dans les pays qui ont une gouvernance quand même très défaillante. C'est un moyen puissant de structurer ces sociétés. Alors, faisons-le et mettons l'argent dont nous disposons dans la promotion de ces formules. Il faut parler plus de méthodes que d'avoir une approche absolument segmentée des problèmes. C'est pas en remplissant un tiroir qu'on arrive à résoudre tout le problème. Il faut voir toute la construction.
Aujourd'hui, Priorité Santé est en direct de Bruxelles à l'occasion des Journées européennes de développement. On parle de la question de l'accès aux soins dans les pays en développement et de ce que fait l'Europe. Docteur Rodier de l'OMS Europe, vous aviez envie de réagir.
Oui, justement pour dire que c'est pas seulement une question d'accès aux soins. La santé, c'est beaucoup plus que l'accès aux soins. En particulier, ça va dépendre de l'accès à l'eau, de l'accès à quel habitat, de l'accès à quelle nourriture, de l'accès à quel travail, etc. Et par exemple, on me posait la question tout à l'heure, pourquoi Ebola ne trouverait pas un terrain pour se répandre en Europe, c'est pas seulement parce qu'il y a un bon système de santé, c'est parce que aussi la société est construite de telle manière que Ebola ne trouverait pas le terrain qu'il trouve là-bas. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment l'Assemblée mondiale de la santé vient de se réunir, le rôle de l'OMS est central dans les politiques de santé générales, et deux grandes tendances se démarquent, je dirais. L'une, c'est l'intersectoriel. Beaucoup d'éléments de la santé ne dépendent pas du secteur de la santé. Ils sont en amont, et ce sont les déterminants de la santé, et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus prises en compte, et qui supposent une coordination intersectorielle, voire interministérielle. Le deuxième point, c'est le partenariat. Le secteur de santé a besoin de développer des partenariats, et le fait maintenant, avec, par exemple, la santé animale, mais avec aussi d'autres domaines. Je parle, par exemple, sur les politiques de santé, prévention, le tabac, l'initiative sans tabac, peut-être des fumeurs autour de la table, je ne sais pas, mais il y a des bons avocats de la santé, santé en tout cas.
Alors, et le tabac dans les pays en développement est en train de faire des ravages, voilà. Parce que l'industrie du tabac a bien compris que dans les pays occidentaux c'était plus compliqué de pénétrer et elle pénètre là-bas.
Voilà, alors le tabac est un exemple de déterminant de la santé qui est en amont, qui ne dépend pas du secteur de la santé, mais qu'il faut prendre en compte, de même que la nourriture, de même que l'air qu'on respire ou l'eau à laquelle on a accès. Donc voilà, c'est je vais juste insister sur le fait que les problèmes
de
la santé,
c'est pas que le soin. Docteur Adenika.
Oui, mais merci encore une fois. Tout à l'heure, on a parlé de l'accès aux soins. Bon, vous avez essayé de citer tous les déterminants de l'accès aux soins de qualité, mais vous oubliez quelque chose qui est très important. Il y a la formation des personnels soignants. Il y a le site d'accueil, c'est-à-dire les hôpitaux même. Et quand vous avez les bâtiments sans les médicaments, sans le minimum possible, Ebola doit émerger. Quand vous avez une infection comme Ebola, rapidement, ça va se répandre. S'il n'y a pas de personnel soignant bien formé, et vous n'avez pas des structures d'accueil adéquates, vous ne pouvez pas prétendre avoir cette santé adéquate. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme moyen, ça ne marchera pas.
Ce que je raconte à chaque fois, vous savez, quand je suis arrivée en septembre pour faire des émissions en Guinée, à Conakry, au CHU, donc là, j'arrive au service des maladies infectieuses, le chef de service me dit, ça va pas être possible, il n'y a pas d'électricité dans mon service. Plus grand hôpital du pays. Ça démarre mal. Jean-Marc Châtaignier.
Oui, moi, je voulais réagir et puis un petit peu synthétiser. Je pense qu'il faut vraiment que nous investissions dans ces systèmes de santé, de financement de la santé, dans la couverture sanitaire universelle.
Ne laissez personne. Et quand vous dites nous, c'est l'Europe. Hein.
L'Europe, le monde, globalement, c'est un bien public mondial. C'est ce que vous disiez.
Ah, mais je suis contente de l'entendre de vous deux là-dessus.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est un bien partagé auquel nous devons faire face. Les épidémies, elles peuvent nous toucher. Le réchauffement climatique va avoir des effets sur des déplacements de population de moustiques. Il n'est pas impossible que le palu réapparaisse dans des zones où il avait disparu. Donc nous devons faire face collectivement à ces enjeux. Il y a les enjeux de financement dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi un enjeu que je voudrais, et je rejoins un petit peu ce que vient de dire notre collègue, il y a un enjeu de savoir, de connaissance. Il faut aussi investir dans la recherche scientifique. Il faut que nous investissions beaucoup plus dans les débats sur ces sujets, sur les moyens par exemple à mettre en œuvre pour réaliser la CSU, selon quel modèle, comment peut-on travailler au Mali peut-être différemment
du Rwanda ou du Malawi,
Rwanda,
par exemple,
ou du Vietnam. Donc à chaque fois, c'est vraiment investir dans des capacités nationales, dans des capacités de recherche nationale, et là je pense sincèrement que nous n'en faisons pas assez.
Jean-Marc Châtaignier, vous êtes justement en train d'évoquer quelque chose dont je voudrais bien qu'on parle sur les 10 dernières minutes qui nous restent, c'est la question des postes OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, fin 2015, beaucoup d'enjeux sur la santé dans ces OMD. Ces postes OMD vont être sur les questions de développement durable. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier un tout petit peu la santé? Moi, je vous avoue avoir une inquiétude là-dessus. Docteur Seidel, peut-être une première réaction, vous qui êtes de la DG DEFCO, de la Commission européenne.
Bon, là, peut-être, il y a deux réponses. Hein. Moi, en tant que professionnel de santé publique, je peux regretter que dans les anciens objectifs du millénaire, on avait trois sur huit objectifs qui étaient spécifiquement adressés à la santé. Et bien sûr, ça donnait un bon souffle en poupe pour l'aide à la santé. Dans les nouveaux objectifs, je pense, ils sont proposés, qui se négocient actuellement à New York.
Oui, c'est pas encore décidé, mais très honnêtement, ce qu'on en entend pour l'instant, oui, peu de place sur la santé.
Voilà, il y a 1 sur 17, je pense, qui parle spécifiquement santé.
Et donc 1 sur 17.
Ceci dit, quand vous regardez un peu plus près, et ça rejoint la demande de travail intersectoriel, vous avez quand même des indicateurs dans les autres objectifs qui sont aussi importants pour la santé. Et je rejoins tout à fait cette optique. La santé, et ça c'est la politique aussi de la Commission européenne, la santé, on peut pas l'avoir sans l'habitat, sans l'eau, sans la nutrition, sans emploi. Mais c'est justement pour cette raison aussi que on va pas se battre à mort pour avoir peut-être 2 sur 17, mais plutôt développer cette dimension intersectorielle.
En disant que la santé est partout. Mais quand même, Charles Gorins, il y aura pas de développement durable si les gens sont pas en bonne santé.
Non, mais il faut lutter d'une part contre la pauvreté, ce qui est l'essence même de la coopération au développement, et d'autre part, il faut lutter contre le changement climatique. Moi, ce qui me préoccupe en la matière, c'est qu'on annonce des moyens de financement qu'on n'atteindra jamais. On parle de 100 milliards pour lutter contre le changement climatique en l'an 2020, alors qu'on n'aurait même pas le dixième. Hein. Je suis sûr et certain qu'on n'arrivera pas. Alors, ceux qui luttent contre le changement climatique au sein de la Commission, ils veulent puiser dans les fonds du Fonds européen de développement et du DCI, du Development Cooperation Instrument, au motif que si la coopération au développement ne met pas d'argent à leur disposition, ils minent la lutte contre le changement climatique. Et moi, je persiste et signe, si on prend de l'argent réservé, alloué à la coopération au développement pour lutter contre le changement climatique, on mine la lutte contre la pauvreté. C'est dans ces termes qu'il faut le voir.
Mais vous arrivez à vous faire entendre là-dessus ?
J'essaie de renouveler mes coups de gueule. J'espère qu'à travers RFI, on entendra un peu plus de monde. Hein. On est des activistes. Hein. Moi, je suis un lobbyiste, en fait, des faibles. Il faut se ranger du côté des faibles pour arriver à pratiquer la vérité en matière de financement. Moi, je ne supporte plus ces annonces toujours faites et jamais tenues. Ce sont des Arlésiennes. On a besoin d'engagement fort, d'engagement fiable, qui permettent à la Commission de faire une programmation digne de ce nom, plutôt que d'annoncer des chiffres qui ne seront jamais tenus.
Docteur Rodier, vous voulez réagir de l'OMS ?
Oui, d'abord pour dire qu'effectivement, il y a besoin d'engagement long sur le long terme qui permet de planifier. Mais je veux juste insister sur l'aspect très important du personnel de santé et de la qualité. L'OMS a un rôle clé en tant qu'agence technique sur la qualité des vaccins, la qualité des laboratoires, etc. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ont été formés, mais on a besoin d'avoir des élites de la santé en Afrique et ailleurs, et puis des gens au niveau du terrain. Il y a eu les soins de santé pour tous qui ont essayé de lancer ça. Il faut relancer la formation des personnels de santé. Il y a une initiative qui s'appelle l'Alliance mondiale pour le développement des personnels de santé jusqu'en 2030. Je crois que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller, parce qu'avec peu de moyens, des gens qui savent peuvent faire une
formation
différence.
Initiale et formation continue qui est exactement aussi importante. Vous vouliez réagir, docteur Adinika?
Oui, je voulais juste ce que vient de dire docteur Seidel, c'est que au niveau du personnel de qualité en formation, nous avons la même problématique au niveau de la recherche. Comme on dit, la recherche, c'est un facteur du développement, surtout au niveau de la santé. Il n'y a pas d'amélioration de santé sans recherche. Il faut former les chercheurs. Beaucoup sont formés au Nord, mais ils ne descendent pas. Nous avons un grand problème de maintien des chercheurs en Afrique.
Et là, une responsabilité des États aussi, justement. La responsabilité de l'État,
il n'y a pas de recherche dans le portfolio, dans le programme des États en Afrique. C'est pas la priorité. Pour se dire la vérité, la priorité est ailleurs. On va dire, la priorité, c'est la santé, la route, l'électricité et l'eau qui n'arrivent même pas d'abord à combler. L'Europe aide au niveau de la recherche et l'Europe peut continuer, peut faire mieux pour maintenir ses chercheurs qu'on a financés, qu'on a formés. Moi, j'ai eu mes financements, ma formation par l'Europe. Je suis retourné en Afrique, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens. Et le lien avec l'Europe
beaucoup restent en Europe, c'est ça que vous voulez dire. Mais parce qu'ils trouvent pas non plus.
99%.
Parce qu'ils trouvent pas à être salarié, avoir un salaire
adéquat quand ils rentrent. Il y a pas de moyens pour continuer leur activité. Je crois que c'est là où on va y aller. L'Europe se développe parce qu'ils ont un système de recherche performant. Et ce système de recherche leur permet de corriger les imperfections au niveau du système de santé qui leur permet d'avoir ce qu'ils ont eu aujourd'hui.
Dans tout le programme de lutte contre la malnutrition qui a été lancé hier dans un partenariat justement entre l'Union européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates, Melinda Gates hier a insisté sur le fait qu'il fallait aussi justement faire des recherches, que tant qu'on n'évaluera pas l'ampleur du problème, on n'arrivera pas à lutter contre, et donc cette recherche est indispensable. Oliver Griffith, vous vouliez réagir?
Bon, je dirais que les sociétés privées ont un grand intérêt dans la recherche, et partout au monde, dans la plupart des secteurs, c'est eux qui financent beaucoup plus que les États. C'est peut-être aussi important pour le secteur médical, et les sociétés privées sont aussi eux, spécialement dans le monde en développement, qui trouvent des produits nouveaux ou des méthodes nouvelles pour atteindre les gens par la télémédecine.
Mais alors là, si vous commencez à dire ça, on va dire oui, mais avec des brevets qui font que c'est des médicaments hyper chers qui du coup sont pas accessibles au Sud.
Non.
Alors, je fais un raccourci, mais c'est un peu vrai, non, Charles Grin?
Je crois qu'il faut ouvrir grandes les universités européennes pour permettre à des étudiants africains de faire des études. Les études doivent être payées par des bourses européennes et en revanche, les récipiendaires d'une telle bourse devraient accepter de porter sa connaissance acquise en Europe, du moins pendant une période limitée, mettons 5 ou 10 ans, dans ce pays. En plus, accordons-leur des visas à entrée multiple leur permettant de parfaire leur formation. Alors s'ils viennent chez nous, avec la garantie qu'ils pourront revenir, ils pourront se faire une cagnotte et entre tout et rien, ce serait un moyen d'améliorer un peu leur vie.
On a tout le temps, nous, des histoires de médecins qui devaient être en plateau, en studio, parce qu'il y avait une grande conférence, un congrès qui sont des lieux de formation pour les médecins africains. Ils n'ont pas obtenu leur visa et ils sont pas autour du plateau chez nous en direct à RFI. On peut vous dire que on l'a ça 4-5 fois par an.
C'est inacceptable.
Je suis d'accord avec vous. Jean-Marc Châtaignier.
Moi, je retiens ce que plusieurs ont dit. Il faut investir dans la recherche. Je pense que c'est essentiel. Il faut investir dans les chercheurs africains. Il y a un vrai gap de connaissances, une fracture de connaissances qui s'est produit. Si vous regardez le brevet, par exemple, Le nombre de brevets produits en Europe, aux États-Unis, ou maintenant en Chine ou au Brésil, c'est plusieurs dizaines de milliers. Le Brésil, c'est 25 000 brevets en 2013. Regardons les brevets qui sont déposés en Afrique. Là, il y a un investissement massif que nous devons faire dans la connaissance et dans le savoir.
Et le SIDA en a été un exemple. On a montré qu'on a pu travailler en termes de recherche nord-sud ensemble et avec des chercheurs.
Et là, l'enjeu est énorme et il faut vraiment qu'on
y travaille. On arrive à la conclusion. Je vais juste donner deux mots de conclusion, docteur Seidel.
Voilà, justement, retenir, les choses sont liées. C'est-à-dire, le personnel de la santé doit être payé, doit avoir un cadre motivant pour travailler, des bâtiments qui sont OK, des médicaments essentiels disponibles, etc. Mm-hmm. Donc, il faut une approche systémique. Il n'y a pas de magic bullet pour résoudre ce problème. C'est pourquoi que la Commission européenne fait vraiment un appui large au système de santé et ne se focalise pas sur une seule maladie ou un seul problème de santé.
Ce qui a été le cas pendant un temps, d'ailleurs, on s'est occupé beaucoup de maladies. Il y a eu des programmes SIDA, tuberculose et peu sur les systèmes de santé. C'est vrai que c'est en train d'évoluer. Charles Gorin, un mot de conclusion, on arrive à la fin de cette émission. C'est vous qui aurez le mot de la fin.
La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût et il faut l'assumer.
Voilà. Et faire comprendre aussi à la population européenne qu'elle a intérêt à ce que la population des pays du Sud soit en bonne santé. C'est un facteur de paix.
Notre sort est lié. Nous sommes dans une communauté de destin.
Vous avez l'impression que la communauté, que l'Europe, les citoyens européens commencent à prendre conscience de ça?
Il y a une société civile très active qui est consciente de ce problème. La globalisation réduit en fait les écarts entre les pays, mais à l'intérieur des pays, elle les augmente. Et ça aussi, c'est un appel à la responsabilisation de tous. Nous, on peut réduire encore le fossé davantage entre les pays en développement et les pays industrialisés. Et à l'intérieur des pays, notamment émergents, il faut que des efforts soient faits. Moi, ce qui m'intrigue, en Afrique, il y a 12 pays qui ont décollé. Qui arrivent à s'en sortir. Ils empruntent la voie latino-américaine. Donc, création de richesses et création d'inégalités plus importantes.
Attention à ça aussi, absolument.
Il faut corriger le tir maintenant. Hein.
Absolument. Merci beaucoup à tous. Nous étions donc en direct de Bruxelles pour les Journées européennes du développement. Demain, on va parler de l'impact de la pollution sur la santé. Vous pouvez dès maintenant nous laisser des messages. Et merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Maître Chablaoui, Assetou Samaké et François Van Riebreek qui était ici avec nous. À demain.